Voilà, bonjour à chacun. Avec mon épouse Anne-Marie, nous sommes très heureux d'être avec vous. J'ai allumé, hein ? C'est bon. Ah, la lumière fut. Oui, très bien, merci. Donc je disais, avec mon épouse Anne-Marie, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Et nous vous apportons les salutations fraternelles de vos frères et sœurs du Centre évangélique de Forêt, avenue Van Loxem, donc un quartier de Bruxelles. Mon intervention ce matin, c'est en deux parties. La première partie, c'est de revoir ce que vous connaissez forcément, les bases bibliques de l'évangélisation. L'évangélisation efficace repose sur ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. On n'a pas à réinventer les choses que le Seigneur a créées lui-même. Parfois, il faut les adapter au siècle que nous vivons, mais les bases bibliques restent les mêmes. Et puis ensuite, nous développerons, sous forme d'une présentation PowerPoint, les services que la CMM met à la disposition des églises pour faire cette œuvre d'évangélisation. J'aimerais que nous lisions dans un premier temps un texte dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 2 et au verset 1er. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne m'en pas chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Nous arrêtons là notre lecture. Avant de commencer, j'aimerais remercier votre pasteur et le comité d'évangélisation pour leur invitation, à laquelle nous avons répondu avec beaucoup de joie. Voilà donc comment le Seigneur nous exhorte à évangéliser, et il le fait au travers d'un certain apôtre Paul. Nous connaissons en partie le passé de cet apôtre, qui lui-même a bénéficié d'un élan d'évangélisation pour un jour faire la rencontre de Jésus-Christ. C'était pas gagné au départ. Quand on considère le passé de Saul de Tarse, en tout cas ce que la Bible nous en dit, on se dit quand même, le Seigneur est capable de sauver n'importe qui. Il est capable de toucher le plus dur, le plus rebelle, le plus fervent adversaire de Jésus-Christ. Si à l'époque il y en avait un, c'est bien Saul de Tarse. Mais Saul de Tarse, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que juste avant les versets que nous avons lus, l'apôtre Paul rappelle comment il s'est converti. Il rappelle ce qu'il était. Il dit qu'il n'est pas digne lui-même d'appartenir au Seigneur, etc. Parce qu'il dit qu'il était un homme violent, un blasphémateur. Il agissait dans l'incrédulité, dans l'ignorance. C'était vraiment quelqu'un de très hostile, qui avait pourtant, qui pouvait dire « j'ai ma religion ». Quelqu'un qui avait sa religion, même très fervent dans sa religion, mais il était perdu parce qu'il ne connaissait pas Jésus, le Fils de Dieu. Et il va bénéficier de cet élan d'évangélisation initié par Jésus lui-même quand il va parler aux premiers disciples, quand il va leur dire « mais dans peu de temps, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins ». Donc, il leur dit, voilà votre mission, la principale mission des croyants, c'est d'être des témoins. Et la première église va se constituer, et il va déjà y avoir de l'évangélisation, la Pentecôte, etc. Et les églises vont commencer à se constituer, et ils vont témoigner de leur foi. Et certainement que le martyr d'Étienne va constituer un élément important de la conversion de Saul de Tarse, parce qu'il était là, les vêtements d'Étienne avaient été déposés à ses pieds pendant qu'il se faisait lapider, mais Saul de Tarse a entendu la prière d'Étienne. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir une persécution terrible. Les disciples vont aller de ville en ville parler de Jésus. Et c'est au chapitre 9 des Actes des Apôtres que Saul de Tarse va rencontrer Jésus. Alors c'est sûr que cette rencontre personnelle-là, elle était importante. Rien ne remplace l'expérience personnelle pour devenir chrétien, mais c'est parce qu'il y a eu d'abord l'Église qui a témoigné, qui a prié, qui a souffert, mais qui était là, malgré tout, que Saul de Tarse et bien d'autres ont pu se convertir. Alors, fort de ça, Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul, sait que l'Église a une fonction fondamentale, irremplaçable sur la terre. Tant que nous sommes sur la terre, nous avons une vocation, nous avons une mission qui peut se développer en trois axes. Le premier axe, c'est celui de la prière. C'est pour ça qu'il commence par la prière. Avant toute chose, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Et vous avez remarqué dans la lecture qu'il utilise trois mots. Prière, supplication, requête. Quand on regarde un petit peu les termes utilisés, on s'aperçoit que Paul dit que la prière, c'est d'abord un besoin. On a besoin de prier, pour chacun personnellement, mais le monde a besoin que l'on prie pour lui. Quel que soit ce que nous pensons du monde, quel que soit ce que devient le monde, l'Église, elle n'est pas là pour juger le monde, mais elle est là pour prier pour le monde. Elle est là pour prier pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ont besoin d'être éclairés. Comme la première Église priait pour que Saul de Tarse, premièrement, il arrête de faire souffrir, mais que lui aussi vienne au salut. Les adversaires d'aujourd'hui peuvent être des missionnaires demain. Les incrédules d'aujourd'hui peuvent venir des croyants exemplaires, parce que nous avons affaire à un Dieu des miracles. On ne chante pas simplement que Dieu fait de grandes choses. On le croit profondément. Et nous sommes appelés à prier et à croire que la prière change la vie des gens. Allô ? Et à croire que la prière peut changer la société aussi. Croire que la prière change la vie des gens, on le croit. Peut-être plus facilement que la prière peut changer la société. Mais la prière peut changer la société. Pourquoi sinon la parole de Dieu nous demanderait de prier pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont une influence sur la société et sur la vie sociétale. Nous dépendons de ceux qui gouvernent les pays. Regardez un peu ce qui se passe parmi les églises persécutées. Et on va voir tout de suite que quand un gouvernement est anti-Dieu et anti-Christ, les églises sont persécutées, les croyants sont malmenés, des pasteurs et des croyants sont mis à mort. Et nous le savons que ça se passe sous nos yeux, en tout cas, du temps où nous sommes sur terre. Saul de Tarse faisait partie des piliers de la société de son époque. En tant que chef religieux, il avait même reçu des pouvoirs pour malmener les églises, donc il allait avec le revêtu d'une certaine autorité. Et c'est parce qu'il sait que un gars comme lui a eu une influence néfaste sur la société, il dit « mais il faut prier pour ceux qui aujourd'hui sont en place, pour que nous menions une vie paisible et tranquille, non pas pour que nous puissions nous mettre dans notre hamac dans le jardin, si on le fait, c'est pas un péché. Hein. Ne vous sentez pas repris, il n'y a pas de problème. » Le fauteuil, le canapé, le lit, la sieste, il n'y a pas de problème. Mais je dirais que Paul nous demande de prier pour que, finalement, nous conservions toujours notre liberté de rassemblement. Il y a des pays où c'est terminé. Les églises sont fermées. Il n'y a pas longtemps, vous avez entendu parler comme moi de l'Algérie et des lieux de culte fermés. Et du jour au lendemain, même si ce n'est pas toujours des pays tranquilles, mais du jour au lendemain, il faut prier pour ça. Prier pour qu'en Belgique, nous ayons toujours la liberté de nous rassembler. Et pas seulement, mais pour que, il est dit, une vie paisible et tranquille, mais en toute piété. En toute piété, ça veut dire dans une vie chrétienne active. Non seulement que nous ayons toujours la possibilité de nous rassembler, mais que l'État, le gouvernement, les autorités nous laissent tranquilles pour faire notre travail, pour que nous puissions toujours parler de Jésus. Non seulement vivre notre foi, mais parler de Jésus. Et ça, c'est la prière. C'est un élément indispensable. Rien ne se fait sans la prière. Quelqu'un a dit, rien ne se fait sans la prière, mais Dieu fait tout avec. Et donc, il est important que l'Église se mobilise. Et j'y viendrai tout à l'heure. Ce qui est important, c'est redynamiser la prière d'évangélisation avec des sujets bien spécifiques pour que Dieu puisse, au travers de l'Église, manifester sa grâce et sa puissance pour le salut des âmes. Donc, prier pour tous les êtres humains, parce que si tous sont pécheurs, tous sont appelés à être sauvés. Vous vous rappelez certainement le jour où vous vous êtes converti. Je me suis converti il y a 42 ans maintenant. Et j'avais pas du tout un passé prédestiné à être chrétien, encore moins être pasteur. Bon, il est dit dans mes toutes jeunes années, un jour tu seras pasteur. J'ai dit, il faut vous calmer tout de suite. C'est d'abord un pasteur, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai découvert un pasteur lorsqu'il m'a prêché l'évangile. Je savais même pas que c'était un pasteur. Je savais que c'était quelqu'un qui était derrière un pupitre avec un micro, puis qui disait des choses qui me touchaient. Et puis après, on a découvert les choses. Et je crois que c'est tellement important. Quelqu'un a prié pour moi. Ma mère a prié pour moi. Ceux qui me connaissaient à l'époque ont prié pour moi. Mais moi, j'avais pas du tout une vocation à devenir chrétien, encore moins pasteur. Et peut-être que vous vous dites la même chose. Eh bien, Dieu a autour de nous des gens qui aujourd'hui sont ce qu'ils sont, mais qui sont appelés à être sauvés, peut-être même à devenir des gens très importants et influents dans le royaume de Dieu. Donc la première chose, c'est la prière. La deuxième chose, c'est de parler de Jésus. Je ne vais pas vous donner des révélations extraordinaires ce matin, simplement rappeler les choses. Finalement, comme Paul le fait avec une grande simplicité, mais ses paroles sont comme un roc. La parole de Dieu, c'est comme un roc, on s'appuie dessus. Et quand Dieu dit des choses comme ça, quand la parole de Dieu précise que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés, pourquoi dit-il ça? Pourquoi c'est écrit comme ça? Tout simplement pour que son amour et je dirais sa passion pour les âmes descende dans notre cœur. Vous savez que rien n'arrête des gens passionnés. Et même l'âge n'arrête pas des gens passionnés. On connaît des gens qui sont passionnés, mais on les arrête pas. Parfois même, il faut les raisonner tellement que leur passion, bien sûr, passion, je m'entends par passion, hein, je parle pas de la drogue, je parle pas tout ça, mais quand des gens aiment quelque chose, ils sont passionnés et ça bouillonne pour ça. Et il est évident que la passion des âmes, ça vient pas tout seul. Faut que l'Esprit de Dieu descende dans notre cœur pour nous rappeler que Dieu a un désir. Je parle pas des rêves de Dieu parce que je ne crois pas que Dieu rêve, mais Dieu a une volonté. La Bible dit que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Il veut que tous les êtres humains partagent son éternité. L'enfer, c'est là où Dieu n'est pas. Ça n'a rien à voir avec la marmite, le diable avec sa fourche, et puis etc. Mais l'enfer, c'est là où Dieu n'est pas. Et il y a des gens qui passent leur vie en enfer, et ils vont passer leur éternité de la même manière, mais là, d'une façon irrémédiable. Et le jour où le Seigneur nous donne cette révélation de la perdition des âmes, je crois que ça sera le moteur pour chacun d'entre nous pour parler de Jésus autour de nous. Non pas pour leur parler de religion, pour leur parler de toutes sortes de choses, mais leur poser la question, mais si un jour ta vie s'arrête, tu vas où? Tu vas faire quoi dans l'éternité? Vous savez, rien que ces questions-là, les gens sont interpellés. Parce que c'est une question de société, la mort. Les gens ont peur de la mort. Et parfois, ils s'en débarrassent vite fait parce qu'ils ont tellement peur de la réponse. Et l'Église, c'est la lumière. On est là pour les éclairer tout simplement et leur dire, voilà, moi, j'ai pas de solution miraculeuse, mais simplement, je connais celui qui peut sauver ton âme. Je connais celui qui a donné sa vie. Là, on a célébré, comme tous les dimanches, avec une grande joie, la mort de Jésus. Mais nous en avons bénéficié de sa mort et sa résurrection. Mais il y en a tellement encore qui ignorent ces choses. Et on est là pour leur dire, pour leur parler, d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Qui peut parler de Jésus si ce n'est celui ou celle qui l'a rencontré? Et il faut juste parler de Jésus, de son amour, de sa bonté, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il revient bientôt, chercher ceux qui l'attendent. C'est pas compliqué. Il faut juste ouvrir notre bouche et laisser notre cœur parler autour de nous. Et puis la troisième chose qui est aussi importante, c'est que il faut qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Non seulement l'Église prie, l'Église témoigne, mais l'Église enseigne. Et il est important de mettre à disposition des nouveaux, vous le faites, il n'y a aucun souci, mais je vais y venir dans quelques instants. Il y a parfois des outils qui sont là pour faciliter les premiers pas de quelqu'un qui vient à la connaissance de Jésus. Des programmes tout simples, qui parfois même peuvent s'adapter où on va chez les gens. Parce que quand on contacte quelqu'un pour la première fois, c'est pas toujours évident qu'il vienne ou qu'elle vienne à l'Église. Mais parfois, on peut aller les rencontrer avec un programme et leur apporter quelques petits enseignements, quelques petites pépites qui leur montrent qui est Jésus et qui leur montrent aussi les premiers pas de la vie chrétienne. Puis après, une fois qu'on les a contactés comme ça, ils peuvent venir dans l'Église. Tout le monde ne vient pas à l'Église de la première fois. Il y en a qui viennent par curiosité, n'est-ce pas, Madame Burel-Ress? Si elle vous donnait son témoignage, elle vous dirait « La première fois que je suis venu à l'Église, c'est parce que j'en avais assez que mon voisin, toutes les semaines, me dise « Viens, viens, donc je vais y aller. » Bon, mais ça a mis du temps. Elle n'est jamais repartie. Ça fait aussi... On a été baptisés le même jour, on ne se connaissait pas. Voilà, on est liés depuis le premier jour, quoi. Hein. Voilà. Et donc, il faut s'adapter aux personnes que l'on rencontre. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne va pas venir à l'Église tout de suite qu'on l'a perdu. Il faut parfois aller la voir. Lui dire, voilà, on va parler de Jésus. Et puis tu viendras à l'Église quand tu veux. Et souvent les gens viennent. Mais le but, c'est pas que les gens viennent à l'Église, c'est d'abord qu'ils viennent à Jésus. Alors s'ils viennent à l'Église et à Jésus, c'est bien. Mais d'abord qu'ils viennent à Jésus, s'ils viennent vraiment à Jésus, ils viendront là où le Seigneur se tient.